On va parler d'une performance dans ce journal, celle de Théo Ratupaya qui s'est qualifié au JO avec son javelot. On ira au Taoné et à Nouméa, mais avant, un anniversaire, celui des 1 an du gouvernement. Le journal de la mi-journée, c'est avec Charlie René. Bonjour Charlie.
Bonjour Damien, bonjour à tous.
Ce vendredi midi, c'est la politique qui fait la une de l'actualité.
Oui, avec un exercice très attendu, peut-être un peu trop d'ailleurs, le bilan des 1 an de mandature effectué ce matin par Mwete Brotherson, entouré de son gouvernement au grand complet. Caroline Perdri, vous étiez sur place.
Oui Charlie, on s'attendait à un bilan structuré de cette première année de mandature, mais l'exercice n'a peut-être pas été à la hauteur des attentes. On essaye de faire notre boulot, répond Mwete Brotherson quand on lui demande quelle fierté il tire de ses 12 derniers mois, mais on n'a pas fait tout ce qu'on voulait, dit-il, sur les regrets qu'il peut avoir, et il pointe le doigt sur l'ancien gouvernement qui a laissé 34 milliards de passifs. Au plan économique, le président préfère voir son verre à moitié plein et il affirme que les chefs d'entreprise qu'il rencontre sont confiants, que leurs carnets de commandes sont pleins, que le bâtiment va bien au point que le ministère des Grands Travaux ne trouve parfois pas de réponse à certains de ses marchés publics. La réflexion sur la réforme de la CPS et de la fiscalité se poursuit selon le calendrier établi et c'est dans le budget 2025 qu'on en verra vraiment les effets, assure le président. Là aussi, il s'agit de rassurer pour trouver des sous. Pas question de rétablir la TVA sociale ni de faire une chasse ouverte aux fraudeurs, mais simplement d'inciter les gens à se mettre dans le droit, dit notre optimiste président, qui nous promet aussi enfin une loi du pays sur les produits nocifs pour la santé. Côté tourisme, Mwete Brotherson assure que les investisseurs rencontrés à Singapour sont prêts à se passer de la défiscalisation, mais qu'un autre dispositif pour les grands hôteliers est en réflexion au ministère de l'économie pour accompagner l'appel à projet qui sera lancé à la fin de l'année sur les 18 sites exceptionnels du pays. Il ne démord pas de son objectif de 600 000 touristes dans 10 ans et répète qu'il faut trouver un acteur majeur du secteur qui accepte de rentrer au capital d'Air Tahiti Nui. Côté relations avec la majorité, là aussi tout va bien. Au Tavigny, on peut avoir des divergences mais on ne se fait pas virer pour autant, dit le président. Enfin, Mwete Brotherson a fait une annonce. Côté éducation pour la rentrée prochaine, une modification des conditions de ressources des bourses non majorées pour les rendre accessibles à davantage d'étudiants et un dispositif qui en porterait le montant de 40 000 à 60 000 voire 70 000 francs par mois.
Merci Caroline Perdri. Toutes les informations sur cette conférence de presse sur les 1 an du gouvernement Brotherson seront bien sûr à retrouver dans l'après-midi sur notre site radio1.pf.
L'actualité, c'est aussi le Taoné qui est en pleine crise.
Et oui, on vous en parlait ce matin. 23 chefs de service ont collectivement proposé leur démission à la direction hier. Une menace révélée par TNTV et qui, bien sûr, est destinée à faire réagir les autorités du pays. Les médecins estiment que 150 postes doivent être pourvus pour que le CHPF fonctionne correctement. Ils chiffrent à 700 millions de francs les besoins d'investissement immédiat dans du matériel, des demandes et un malaise qui ne sont pas nouveaux dans l'hôpital public. On vous en avait parlé de ces départs de soignants, des oncologues par exemple. On vous avait parlé à de nombreuses reprises du mal-être de nombreux professionnels qui dénoncent côté patient les délais d'attente au bloc ou aux urgences. Alors les chefs de service démissionnaires ne veulent pas s'exprimer au micro. Devoir de réserve des fonctionnaires oblige. En revanche, le docteur Philippe Dubois, basé à l'hôpital d'Uturoa, tient à leur apporter son soutien.
Aujourd'hui, la santé publique au niveau du pays est très malade et surtout est en danger suite à des problèmes de ressources humaines, en particulier de cas de recrutement ou de maintien du personnel, qu'il soit médical ou non médical, au sein des hôpitaux. Et malheureusement, nous avons pu voir effectivement une fuite des praticiens. Il est urgent d'écouter les praticiens hospitaliers, mais aussi le monde de la santé.
Écouter les praticiens, c'est le message au gouvernement. Il n'est pas lui non plus nouveau. Il faut d'ailleurs noter que les revendications actuelles sont peu ou prou les mêmes que lors de la grève hospitalière de janvier 2023. À l'époque, Cédric Mercadal n'était pas encore ministre de la Santé. Il a apporté quelques précisions sur le sujet ce matin lors d'une conférence de presse, de la conférence de presse des 1 an du gouvernement. D'abord en rappelant que le renflouage du CHPF était bien au menu du collectif budgétaire de 36 milliards de francs qui était hier encore en commission de l'Assemblée qui doit être votée à la fin du mois. Les soignants regrettent que les aides au Taoné servent d'habitude à l'apurement des créances et ce sera bien l'utilité d'une première ligne de financement de ce collectif à 1,7 milliard de francs. Mais il y en a une deuxième à 1,9 milliard cette fois et celle-ci sera bien fléchée vers la réponse aux besoins exprimés par les médecins. De quoi recruter, mais ces recrutements sont, on le sait, difficiles du fait du statut peu attractif des soignants de l'hôpital public. Sur ce point, Cédric Mercadal rappelle qu'un projet de modification du statut du CHPF en établissement de santé publique est à l'étude. Il devrait notamment permettre, d'après le ministre, de recruter des médecins européens et pas seulement français.
On traverse le Pacifique Sud maintenant pour atterrir en Calédonie.
Oui, la Calédonie où l'accalmie se confirme. La nuit dernière, il y a tout de même eu quelques affrontements entre émeutiers et forces de l'ordre. Toujours quelques dégradations de magasins et infrastructures publiques. Mais les violences du début de la semaine, d'une intensité que le Caillou n'avait pas connue depuis les années 80, sont bien redescendues d'un cran. À Paris, on annonce tout de même des renforts, des peines durcies pour les pillards, un pont aérien vers la Tontouta. Gabriel Attal a même annoncé cette nuit que le passage de la flamme olympique serait annulé sur le Caillou, pour des raisons de sécurité bien sûr. Car au fond, tout le monde sait bien qu'il ne faut pas grand-chose pour enflammer de nouveau la situation. C'est ce que confirme Gilbert Thuénon, vice-président de l'Union calédonienne, un cadre du FLNKS qui tient l'État comme responsable de la situation. Depuis 2021, Paris et notamment Gérald Darmanin ont d'après lui multiplié les passages en force sur le troisième référendum, sur la négociation du nouvel accord ou aujourd'hui sur le corps électoral, un combat sacré, je cite, pour les Kanaks. Bref, pour le maire et membre du gouvernement calédonien, l'État a abandonné les principes de consensus et d'impartialité sur lesquels étaient basés plus de 35 ans de processus de paix.
Si vous avez des gens qui, en cours de route, revirent et puis changent les règles du jeu, à l'instar de ce que l'on a pu assister là, ben ça amène ce que l'on connaît aujourd'hui. Nous n'avons pas cessé de dire « pas touche au corps électoral ». C'est trop dangereux de toucher à cette chose. Pas de décision sans consensus.
Gilbert Thuénon qui charge aussi les loyalistes accusés d'avoir voulu rompre au plus vite avec les accords et surtout d'avoir construit pendant de longues années une société inégalitaire. Oui, les émeutiers kanaks aspirent à l'indépendance, mais les violences ne répondent pas à l'appel des partis indépendantistes, ni même à celui de la CCAT, cellule d'action de terrain justement créée par l'UC. Le mouvement politique aurait été débordé, toujours selon Gilbert Thuénon, par des phénomènes de délinquance nourris par la misère sociale.
Le mot d'ordre était un mot d'ordre politique. C'est bien suivi dans les autres communes rurales et aux îles, sur les îles de Nouvelle-Calédonie. Par contre, à Nouméa, compte tenu des difficultés sociales et financières que nous traversons, on a eu affaire, malheureusement, à cette délinquance incontrôlée. Parce que Nouméa est bombé, par exemple, de squats. Il y a des bidonvilles autour de la ville. C'est les gens qui habitent dans ces endroits, qui viennent chercher du travail et tout ça. Il ne faut pas dire deux fois, pour aller casser la boulangerie d'à côté pour avoir à manger.
Voilà, Gilbert Thuénon qui explique que l'État se trompe en qualifiant la CCAT d'organisation mafieuse ou terroriste, que Sonia Baquès, la chef de file des non-indépendantistes, se trompe aussi en parlant d'émeutiers motivés par un racisme anti-blanc. Il faut que chacun voit la réalité en face, assure le vice-président de l'UC, qui estime que les négociations d'un accord global avant la fin juin seront difficiles, mais pas impossibles. En revanche, les discussions n'aboutissent pas, que la réforme constitutionnelle passe unilatéralement au Congrès de Versailles, les ingrédients seront toujours là pour un embrasement. Fin de citation.
Et Moïtaï Brotherson s'est de nouveau exprimé sur cette situation ce matin.
Oui, d'abord en se félicitant qu'une soixantaine de poches de sang collectées par le CHPF aient été livrées hier par l'armée à Nouméa, où les hôpitaux en manquent cruellement, le résultat d'une coopération rapide entre le pays et l'État. Le président du gouvernement a aussi assuré dans un communiqué que la situation chez nos frères et sœurs du Pacifique affecte tous les Polynésiens et que ces Polynésiens sont prêts à participer à l'effort pour un retour à la normale. Moïtaï Brotherson propose une fois de plus son aide et celle du pays pour rétablir le dialogue et il tente dans le même temps activement de trouver des solutions pour les Polynésiens bloqués sur le Caillou et les Calédoniens bloqués au Fénois.
Et puis retour au Fénois pour cette inauguration à Moréa.
Oui, Moréa où la zone potable est sur le point de s'étendre. Hier, la commune et son partenaire et concessionnaire, la Polynésienne des Eaux, ont inauguré une nouvelle usine de potabilisation de l'eau à Nouroa. Sa mise en service doit permettre de fournir 420 foyers supplémentaires sur une zone allant du PK 31 ouest au PK 24 est. Cette usine qui utilise l'eau de surface des rivières est la troisième du genre et elle va passer la couverture de la fourniture en eau potable de 73% à 80% en juin. Pour les 20% qui restent, pas d'inquiétude, la mairie de l'Île-Sœur et la Polynésienne des Eaux prévoient une couverture totale d'ici 2026.
On parle de sport maintenant avec cette performance incroyable.
Oui,
Charlie.
Incroyable, historique, lunaire même. Les mots manquent manqués aux commentateurs du meeting d'athlétisme de Seine-et-Marne la nuit dernière. Le Polynésien Teura Tupaia a lancé son javelot à 86,09 mètres. Du jamais vu en France, où le record national était tenu par Pascal Lefebvre depuis 1989. À l'époque, le Français avait réalisé un lancer à 82 mètres. Record de France pulvérisé donc, comme bien sûr le record personnel du Polynésien qui avait avait déjà surpris son monde en devenant en 2021 recordman de France Espoir avec un jet à 80,86 m, plus de 6 mètres de plus que son record précédent. Teura Tupaya était alors passé tout près d'une qualification pour les JO de Tokyo qui avait lieu la même année. Depuis, son objectif était clair, réaliser les minima pour participer à Paris 2024. La barre était très haute, 85,5 mètres. Elle est dépassée. À 24 ans, Teura Tupaya sera donc bien au Stade de France sous les couleurs de l'équipe de France pour les épreuves olympiques de juillet et août. Il aura même une chance de podium. Son jet à 86 mètres lui aurait permis par exemple une médaille de bronze au JO de Tokyo et voire même une médaille d'or avec seulement 1,50 m de plus.
Et puis vous avez sûrement fait le décompte toute la semaine, il nous restait encore deux candidates à Miss Tahiti à vous présenter.
Et vous le savez, les prétendantes à la couronne étaient sur notre plateau tous les matins cette semaine. C'est fini aux grandes dames de Damien et d'Aldo qui ont reçu et interviewé avec délicatesse ce vendredi les candidates 9 et 2. Alors la première, c'est Orietta Terranova. Son nom vous a déjà donné un indice. La jeune femme est italienne par son père, polynésienne par sa mère. Elle explique avoir été encouragée à s'inscrire au concours Miss Tahiti depuis toute petite. Mais c'est seulement cette année, à l'aube de ses 25 ans, qu'elle a décidé de franchir le pas. Une manière pour elle de vaincre sa timidité, mais aussi d'évoluer personnellement et professionnellement. Car sa carrière professionnelle, elle n'a aucun mal à l'imaginer. Elle se rêve de percer dans le mannequinat, mais ambitionne surtout de devenir rentière en possédant des maisons dans le monde entier pour ensuite les mettre en location. Avec son maître 67, Orianna sait qu'elle ne décrochera pas la couronne de Miss Tahiti. Elle évoque en revanche ce concours comme l'expérience d'une vie dont elle ne veut retenir que les bons côtés. Elle fait d'ailleurs partie de ces candidates qui ne se prennent pas trop au sérieux. Écoutez.
J'ai fait de la danse tahitienne, du surf, même si je survis plus à la mer qu'autre chose. Je danse chez Mako. Je fais pas des spectacles, je suis juste à l'école de danse. Okay. J'ai pas encore le niveau pour faire les spectacles. Un jour peut-être.
Mais ça me fait marrer parce que j'ai plein de passion et je suis nulle dans mes passions.
Pareil pour le surf, tu vas en école ou tu apprends toute seule?
Non, je prends toute seule. Je suis nulle aussi, mais j'aime bien.
Alors, Orietta Terranova, candidate numéro 2, qui n'était pas avec nous lundi puisqu'elle était souffrante, et vous entendez à sa voix qu'elle est toujours un petit peu malade. Elle était accompagnée ce matin de la candidate numéro 9, Erehia Sanford, qui vit à Moorea et qui insiste sur le fait qu'elle est originaire de Papara et Mataya. Âgée de 27 ans, Erehia est la doyenne de ce concours. Elle parle de Miss Tahiti comme un accomplissement personnel après avoir souffert jusqu'à l'âge de 8 ans de bégaiement sévère. La jeune femme qui exerce en